Décryptage, Adrien Delgrange.
19h10 à Paris, où vous soyez sur la planète. Bienvenue à tous dans l'émission Décryptage.
RFI.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est un carburant qui présente de nombreuses qualités. L'hydrogène, il ne pollue pas lors de son utilisation. C'est un gaz extrêmement prometteur, mais aussi particulièrement complexe à produire en grande quantité. Un chiffre pour comprendre la complexité de ce gaz, la température de liquéfaction de l'hydrogène est de moins de 153 degrés. L'hydrogène, présenté comme le combustible de l'avenir, il fait rêver, mais du rêve à la réalité, il y a encore du chemin. Chemin escarpé que nous allons tenter de débroussailler ce soir avec nos deux invités. À l'heure d'une crise énergétique planétaire, l'hydrogène, est-ce la solution? C'est ce que nous décryptons ce soir. Bonsoir Inès Bouassida.
Bonsoir.
Chercheuse experte de l'énergie à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Nous accueillons également Mikko Mered. Bonsoir.
Bonsoir.
Enseignant en géopolitique de l'hydrogène à Sciences Po et HEC. Hasard ou pas du calendrier, en France aujourd'hui, à l'ombre d'un parc éolien inauguré au large de Saint-Nazaire aujourd'hui par le chef de l'État, eh bien, non loin de là, une première mondiale, une start-up française, Life, a inauguré une plateforme de production d'hydrogène en mer. Alors, Mikko Mered, juste en guise d'introduction, dites-nous, vous avez suivi ce projet, en quoi consiste cette plateforme ?
Oui, effectivement, j'ai bien suivi le projet. C'est un projet qu'on ne peut pas rater puisque c'est une première mondiale française et qui a vocation à s'exporter un peu partout dans le monde. Donc effectivement, l'idée ici, c'est de produire de l'hydrogène directement en pleine mer. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que au départ, la société qui s'appelle Life, cette start-up, produisait, a développé l'un des premiers capaciteurs de production d'hydrogène vert, donc c'est-à-dire à partir d'énergie renouvelable, sur Terre, en Vendée. Donc ils faisaient ça avec des éoliennes qui sont des éoliennes terrestres. Et là, l'objectif maintenant, c'est de passer la barrière du littoral et de pouvoir produire de l'hydrogène directement en mer en raccordant une plateforme qui va produire cet hydrogène avec un électrolyseur dessus, on va peut-être rentrer dans le détail plus tard, et cet électrolyseur va être connecté avec des éoliennes flottantes ou posées en mer qui vont pouvoir donc produire avec un rendement bien supérieur à celui des éoliennes terrestres.
Inès Bouassida, toujours pour définir l'hydrogène, en quoi ce gaz peut-il être qualifié d'énergie verte ?
Alors l'hydrogène, c'est une énergie intéressante parce que, à la différence des combustibles fossiles, quand on la brûle, elle n'émet pas de gaz à effet de serre, de CO2 par exemple. Et c'est par ailleurs un vecteur énergétique que l'on sait produire avec de faibles émissions de gaz à effet de serre. Donc, on sait le produire de manière verte. Et puis ensuite, c'est un vecteur énergétique qui peut être stockable pendant d'assez longues durées par rapport, par exemple, à l'électricité, qui est relativement transportable. Et donc, on voit qu'il a beaucoup d'atouts, qu'il peut avoir beaucoup d'atouts dans le système énergétique.
Où produit-on aujourd'hui l'hydrogène? Même là, si on prenait l'exemple de cette plateforme offshore, quels sont les pays leaders aujourd'hui à travers le monde, Inès Bouassida?
Alors, l'hydrogène est produit un petit peu partout dans le monde, essentiellement à partir d'énergie fossile, notamment de gaz naturel et de charbon. Et il sert surtout dans les processus industriels, dans le raffinage, dans la fabrication de fertilisants. Et donc, il est produit un petit peu partout dans le monde, en Asie, en Europe, et puis aussi dans d'autres régions.
Pourquoi est-il aussi difficile à être produit, à être transporté? On précise aussi qu'il est hautement inflammable, Mikko Mered.
Parce que c'est tout simplement une molécule, si on prend en fait le dihydrogène, donc H2, qui est ce qui nous intéresse, mais un atome, l'hydrogène tout court, H, c'est un atome donc qui est extrêmement léger, qui est extrêmement volatile, et du coup, il est très difficile finalement de pouvoir le canaliser. C'est la raison pour laquelle il n'est pas si difficile que ça à produire, à partir de technologies qu'on maîtrise dans le monde depuis de très nombreuses décennies, mais ce qui est difficile, c'est de le stocker, et c'est de le transporter jusqu'à un utilisateur final. Par exemple, pour mettre votre hydrogène dans une voiture, dans un train, peut-être dans 10 ans ou dans 15 ans dans un avion ou que sais-je d'autre. Donc la difficulté qui va se poser aujourd'hui, c'est d'une part de savoir est-ce qu'on peut bâtir une chaîne de valeur depuis la production jusqu'à l'utilisation finale qui soit bien décarbonée. Ça, c'est le premier sujet, parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène, en réalité, dans le monde, n'est pas vert. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est-à-dire en 2020, était produit à 96% dans le monde, à partir d'énergie fossile. Donc aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas vert. En revanche, l'objectif des années 2025, 30, 35, 40, 50, c'est de faire en sorte de produire cet hydrogène de manière décarbonée à partir notamment d'énergie renouvelable, mais ce n'est pas la seule capacité, la seule possibilité. Et si c'est possible, ou plutôt si ça devient effectivement une chaîne de valeur relativement importante et bien déployée dans le monde entier, comme le montre très bien le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, qui est sorti en avril sur les adaptations et l'atténuation par rapport au changement climatique, eh bien, cet hydrogène décarboné peut effectivement être l'une des solutions, ce ne sera pas la solution, ce n'est pas la solution magique, mais l'une des solutions qui permettent d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et des pays très divers, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, aujourd'hui c'est la Chine qui est le premier producteur mondial avec 33% de la production mondiale d'hydrogène, et bien tous ces pays-là s'intéressent à cette molécule, le dihydrogène, ou à cet atome d'hydrogène.
Alors si on connaît cet atome depuis bien longtemps, pourquoi l'hydrogène a-t-il du mal à s'imposer, Inès Boissida?
Alors en fait, ce qui est intéressant de rappeler sur l'hydrogène, c'est de réfléchir à quoi est-ce qu'il peut servir dans l'objectif de réduire nos émissions et de réaliser l'accord de Paris, de décarboner nos économies. Et en fait, on se rend compte que les usages pour lesquels il est important, c'est des usages dans l'industrie, en partie qui existent déjà, mais c'est en grande partie aussi des usages qui n'existent pas. Par exemple, pour la fabrication d'acier, ou alors... il peut servir de base à fabriquer d'autres carburants qui peuvent servir dans le transport aérien, donc pour les avions, et puis dans le transport maritime. Et donc, pour l'instant, ces filières-là, elles sont encore à construire, elles n'existent pas. Et donc, on voit que le fait que l'hydrogène vert nous serve à décarboner nos économies, c'est conditionné à ce qu'on diffuse, on construise des filières industrielles nouvelles, qu'on diffuse des nouveaux équipements, des nouvelles technologies, qu'on mette en œuvre des nouveaux systèmes d'approvisionnement. Et c'est une tâche de taille. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les filières, elles sont à construire, en fait.
Ça passe par une volonté plus politique ou industrielle, d'après vous?
C'est un petit peu des deux. Je pense que depuis 2020, on a vu un regain d'attention politique autour de l'hydrogène avec notamment l'Union européenne qui a publié une stratégie hydrogène avec des objectifs ambitieux pour déployer l'hydrogène. Des États membres européens ont aussi formulé des stratégies dont l'Allemagne, la France, l'Espagne. En dehors de l'Union européenne, on a aussi le Royaume-Uni. Enfin, on a un certain nombre de pays qui s'y intéressent et puis aussi ailleurs dans le monde. Des pays sur le continent africain, sur le continent américain qui s'intéressent à l'hydrogène. Donc on a vraiment une attention politique sur ce sujet-là, mais on est encore dans une phase où on planifie à quoi va servir l'hydrogène, quelles filières soutenir, comment les soutenir. Et puis on voit des projets qui commencent à se mettre en place et le projet de l'entreprise Lhyfe que vous mentionnez au début de l'émission, c'en est un exemple. C'est des technologies qui sont intéressantes à déployer et à tester pour apprendre et pour déployer des nouvelles filières.
Cette crise énergétique là, du moment, ou en tout cas annoncée à travers le monde, peut-elle accélérer la vulgarisation de l'hydrogène et de son utilisation, Micomérède?
Ah mais complètement, et c'est exactement ce qu'on voit. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'hydrogène, c'est à la mode aujourd'hui, ou c'est revenu à la mode. Ce n'est pas la première fois que c'est à la mode. L'hydrogène était déjà à la mode à la fin des années 50. Elle a été à nouveau à la mode dans les années 70, quand les États-Unis, la Russie et d'autres pays encore se sont demandé qu'est-ce qui allait pouvoir être la molécule, ou en tout cas la chaîne de valeur, qui allait pouvoir faire l'après-pétrole, dans le contexte évidemment de crise pétrolière des années 70. Et puis on l'a revu dans les années 90, plutôt sous un ordre technologique. Donc là, non pas au niveau de la production d'hydrogène, mais au niveau de l'usage, avec les premières piles à combustible de puissance intéressante qui pourrait imaginer développer donc une chaîne de valeur autour, par exemple, de la mobilité, autour de l'aviation ou que sais-je d'autre. Donc ça a commencé à émerger dans ces eaux-là. Mais il y avait plusieurs problèmes, et notamment des problèmes de fiabilité et des problèmes aussi de sécurité. Donc pendant 20 ans, toute la décennie des années 2000 puis 2010, vous avez eu des programmes pilotes soutenus par des États, avec pour certains des stratégies relativement ambitieuses pour l'époque, en 99, 2002, 2003, qui consistait à dire, voilà, on va soutenir notre écosystème de recherche et de développement, recherche théorique, recherche appliquée. C'était vrai en Europe, c'était vrai au Japon, en Corée du Sud ou encore en Amérique du Nord principalement. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on peut faire une valeur ajoutée sur l'ensemble de cette chaîne de valeur qui soit sécurisée. C'est-à-dire que l'hydrogène est inflammable, oui, mais l'hydrogène, même si ça peut faire boum, ça peut effectivement exploser, le niveau de criticité en termes de pression qu'il faudrait pour que l'hydrogène explose est assez limité par rapport aux utilisations qu'on envisage aujourd'hui pour des voitures ou autre chose. Donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui, pour résumer en une phrase, c'est tout simplement des politiques partout dans le monde qui sont en train de se dire « soit l'hydrogène va me permettre de décarboner mon économie, et je ne peux pas faire autrement parce qu'il faut décarboner à l'horizon 2050, c'est un élément de valeur ajoutée pour mon industrie, etc. » Ça, c'est typiquement le cas de l'Allemagne, du Japon, de la Corée du Sud. Et puis, vous avez d'autres pays qui, derrière, sont en fait des puissances qui produisent du pétrole, du gaz, du charbon, bref, des hydrocarbures dont on veut se débarrasser hein, au niveau mondial. Et là, vous allez retrouver l'Arabie Saoudite, vous allez retrouver le Nigeria, vous allez retrouver évidemment la Russie, même si pour la Russie, évidemment, la guerre en Ukraine a mis une petite pause sur leur programme hydrogène. Bref, ces pays-là cherchent tout simplement à trouver un nouveau débouché pour ne pas se faire avoir quand les Européens ou les Américains, qui auront fait la transition énergétique, ne voudront plus acheter leurs hydrocarbures. Et enfin, en une seconde, il y a un dernier groupe de pays qui sont extrêmement importants et qu'on voit beaucoup en Afrique. Ce sont des pays qui aujourd'hui ne produisent pas de pétrole, ne produisent pas de gaz non plus, ne sont pas des énergéticiens, et qui, grâce à l'hydrogène et grâce donc à leur gisement d'énergie renouvelable, solaire, éolien, biomasse, mais aussi géothermie, dans le cas par exemple de l'Éthiopie ou du Kenya, vont se dire « et si maintenant je devenais un pays exportateur d'énergie ?» C'est ça que l'hydrogène est en train de permettre à ces pays-là, et du coup qui attire tous les politiciens du monde entier.
Vous vouliez réagir, Inès Bouasseda, au propos de Mikko Mered ?
Oui, si je peux compléter un petit peu sur pourquoi est-ce que la tension politique sur l'hydrogène est revenue comme ça à la mode en 2020. Je pense qu'il y a aussi eu l'effet politique des engagements politiques au niveau européen, l'engagement à la neutralité climat en 2050. La neutralité climat, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que en 2050, on n'émet pas de gaz à effet de serre ou presque pas de gaz à effet de serre. Et là, ça veut dire qu'on s'est intéressé à la décarbonation de secteurs qui au début, nous intéressaient un petit peu moins, où on se disait qu'on pouvait garder des émissions. Et bien, en fait, maintenant, il faut tout décarboner. Et c'est dans ces secteurs-là que l'hydrogène est vraiment clé. Et donc, ça a été un facteur très important qui a généré des enthousiasmes pour l'hydrogène. Et puis, il y a aussi le fait que l'hydrogène du futur, c'est l'hydrogène fabriqué à partir d'électrolyse, c'est-à-dire fabriqué à partir d'électricité et d'eau. Et pour que cet hydrogène soit propre, il faut que l'électricité soit propre. Et on sait bien que depuis une décennie, voire deux décennies, le coût de l'électricité renouvelable a beaucoup baissé. Et ça ouvre des opportunités économiques pour l'hydrogène fabriqué à partir d'électricité renouvelable qui n'existait pas dans les années 50, dans les années 70, où on a eu les premières sessions de mode de l'hydrogène, si on peut dire ça comme ça, pour reprendre les expressions de Mikko Mered. Et donc, ce que je trouve intéressant aussi à garder en tête sur ça, c'est en fait à quoi va nous servir cet hydrogène. Je veux dire, l'hydrogène... ça suscite beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et il faut se rappeler que l'hydrogène pour décarboner, ça sert à certains usages. C'est une des briques pour la transition énergétique qui est très importante, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la transition. Ça restera une énergie minoritaire dans notre système énergétique. Ce n'est pas une énergie qui va arriver chez les particuliers et on n'aura pas... on n'aura probablement pas des échanges d'hydrogène au niveau international comme on a aujourd'hui des échanges d'énergie fossile. Ce ne sera pas de la même dimension parce que les consommations ne seront pas de la même dimension.
Quelques exemples hein, sur la mobilité. Je regardais donc quelques constructeurs automobiles la proposent aujourd'hui des voitures qui roulent à l'hydrogène. Pour les citer, donc Toyota, Hyundai. Coût de la voiture entre 70 000 et 80 000 euros. On sent que ce n'est pas encore accessible à tous.
Ben, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait effectivement des économies d'échelle pour faire en sorte que les prix baissent. Et pour qu'il y ait des économies d'échelle, il faut qu'il y ait une adoption massive de cette solution. Et là où je suis un peu en désaccord avec Inès Boissida, c'est tout simplement que, oui, effectivement, si on se pose d'un point de vue statique, sur la décennie 2020-2030, personne n'envisage effectivement de grands mouvements de trading d'hydrogène, de la même manière qu'on peut l'envisager évidemment pour le gaz, le pétrole ou le charbon. Cependant, à l'horizon de la deuxième moitié du siècle, il n'y a rien qui laisse penser que ça n'arrive pas. D'autant plus que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un pléthore de pays et d'économies qui trouvent un intérêt à l'hydrogène. Et en fait, la question de recherche que beaucoup de collègues se posent effectivement, c'est est-ce que cette géopolitique de l'hydrogène va changer véritablement la géopolitique de l'énergie au global en ramenant la capacité de produire de l'électricité décarbonée au plus près des usagers, donc c'est-à-dire faire en sorte que, grosso modo, les pays dans le monde entier deviennent plus ou moins autonomes, plus ou moins souverains énergétiquement en fonction, par exemple, de leur capacité de production d'énergie renouvelable pour faire de l'hydrogène. Ça, c'est la première option. Mmh. Deuxième option, est-ce que, au contraire, pour des questions de coût et donc in fine de prix pour l'usager final, on ne va pas se retrouver avec une captation du marché par quelques grands pays ou quelques grands acteurs qui savent produire très massivement de l'hydrogène à très bas coût et qui donc permet de lancer la chaîne de valeur. Typiquement, ce que je suis en train de décrire là, c'est exactement le hiatus entre la stratégie française et la stratégie allemande sur l'hydrogène, où l'Allemagne mise sur ses grandes capacités de production mondiale et donc le trading qui va avec, mais à bas coût, et les Français, au contraire, pensent qu'il y aura une régionalisation de l'énergie grâce à l'hydrogène.
Inès Boissida, oui. L'hydrogène, allez-y.
Oui, alors je voudrais juste rappeler que, en fait, l'hydrogène, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, l'hydrogène du futur, il est produit à partir d'électricité. Et donc, en fait, sur le plan physique, en fait, quand on convertit une énergie en une autre, on perd de l'énergie à la conversion. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça veut dire que quand on prend un kilowattheure d'électricité qu'on le convertit en hydrogène, on perd à peu près un tiers de cette énergie. Et donc, on comprend bien que sur beaucoup, beaucoup d'applications où on utilise de l'énergie, eh bien, en fait, ça sera plus efficace. Et quand je dis plus efficace, ça veut souvent dire moins cher, d'utiliser directement l'électricité plutôt que d'avoir l'électricité, de la convertir en hydrogène et puis d'utiliser l'hydrogène. Et c'est typiquement le cas des voitures particulières où aujourd'hui, des voitures qui utilisent les batteries sont beaucoup moins chères que des voitures particulières qui utilisent l'hydrogène avec des piles à combustible. Et on voit très bien que beaucoup de constructeurs automobiles se sont désengagés de filières de production de voitures particulières à hydrogène parce que justement, pour eux, le véhicule du futur, ce sera à cette échelle, le véhicule particulier du futur, ce sera à batterie, ce ne sera pas à hydrogène parce que sur ce segment-là, l'hydrogène est moins compétitif, moins intéressant que l'électricité. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à rappeler quand on réfléchit à quel est le rôle de l'hydrogène dans la transition. Il faut vraiment se dire à quoi est-ce qu'il nous sert, dans quels usages est-ce qu'il est intéressant. Et pour répondre à cette question, il faut se dire en fait, bon, on a l'option hydrogène qui est techniquement faisable, mais on a aussi d'autres options et comparer ces options par rapport à des caractéristiques techniques, des caractéristiques économiques aussi. Oui. Et donc, sur la voiture, je pense que c'est un exemple très parlant.
Ainsi se referme Décryptage. Le train, je citerai juste ce record battu, un train à hydrogène d'Alstom qui a battu un record de distance en parcourant près de 1200 km avec un seul plein. C'était cette semaine, ou encore la société Universal Hydrogène qui a inauguré à Toulouse un centre d'essai pour un futur avion qui circulerait grâce à l'hydrogène. Merci à nos deux invités, Miko Mered, Inès Boissida, d'avoir participé à ce décryptage. Réalisation Hélène Avril, coordination Éléonore Krenik, documentation Emmanuel Sevin. À suivre le débat du jour.